Mais depuis quelques semaines sur soyez dignes, soyez dignes. J'étais loin d'imaginer toutes les implications juste de ce mot. Hein. Je priais, je disais Seigneur, quel est le message que je dois apporter à l'Église? Et ce mot soyez dignes a retenti dans mon cœur. Alors, ok, très bien, Seigneur, je commence à chercher des textes et je me suis rendu compte qu'à plein de moments, Dieu nous appelle à être digne. Cette dignité que Dieu désire dans notre vie, cette dignité qui lui est due, soyons dignes de notre Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le thème « Soyez dignes de la vocation ». La parole de Dieu en parle. Digne de la vocation au sein de l'Église, digne de la vocation hors des murs de l'Église, digne de la vocation céleste. Alors on va commencer par la vocation au sein de l'Église. Éphésiens chapitre 4, des versets 1 au verset 7. Le mot vocation, étymologie du mot, vient du latin, qui veut dire appeler. Dieu nous a appelés. Qui se sont appelés de Dieu? Alors, juste vous dire, Dieu n'appelle pas que des pasteurs. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé. Si vous êtes venu au Seigneur, c'est parce que Christ vous a appelé. Parce que la voix de Christ a retenti dans votre cœur. Alors, certes, de manière différente, on n'a pas tous eu la même expérience que l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Mais on n'est pas tous Paul. Néanmoins, nous sommes tous appelés. Et il est question pour nous, frères et sœurs, pas seulement d'être appelés, mais devenir aussi des élus, n'est-ce pas? Mais cette élection est liée aussi à la manière où nous vivons notre appel. Alors ce matin, j'aimerais, par ces quelques passages, nous encourager à être dignes de la vocation que Christ nous a adressée. Le premier texte, il est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1. Paul dira « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Alors la vocation, elle a été donnée à chacun de nous pour l'unité et au service de celui qui est unique. La vocation que Dieu nous adresse n'est certainement pas pour nous. La vocation que Dieu nous accorde n'est pas pour que nous soyons mis au-dessus des autres, mais au service des autres. La vocation que Dieu nous accorde dans sa bonté, dans sa miséricorde, est celle qui doit nous amener à marcher d'une manière digne de cette vocation. Parce que si je ne marche pas de manière digne de cette vocation, je jette du discrédit sur celui qui m'a appelé à le servir. N'est-ce pas? Quand vous allez dans un garage auto, si le mécanicien fait mal le travail sur votre véhicule, est-ce que c'est le nom du mécanicien que vous allez vous rappeler ou est-ce que c'est le nom du garage? Quand vous allez à la boulangerie, si vous achetez du pain et que ce pain, il n'est pas bon, est-ce que c'est le nom du boulanger que vous gardez en mémoire ou le nom de la boulangerie? Et si, frères et sœurs, alors que nous avons été appelés à servir le Seigneur, nous le faisons mal, de manière indigne, de qui on va se rappeler? À qui on va dire, c'est quoi ce maître d'œuvre qui appelle des ouvriers si mauvais? Si terrible, si méchant. Alors la parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Terrible. Terrible parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un qui a un appel, il devrait être au-dessus des choses qui nous mettent en galère. Ça arrive des fois d'être dans des galères, non ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être dans une galère ? Ah ! C'était ces navires dans lesquels on mettait les prisonniers. Ah, vous comprenez où aussi ça sort le mot en rame. On est attaché, on est lié et on n'a pas d'autre possibilité que de... Est-ce qu'il y en a qui rament ? Est-ce qu'il y en a qui ont été mis de force ou par mauvais choix dans des galères ? L'apôtre Paul... Ce n'était pas le cas. Mais lui, il se considérait prisonnier dans le Seigneur. C'est beau, hein ? Prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier parce qu'à quelque part, même si son corps était pris à partie, mis dans une prison humide, l'apôtre Paul avait une santé très fragile. Tout le cours de sa vie, tout le cours de son ministère, il y avait un autre homme qui était à côté de lui, dont on ne parle pas beaucoup. Mais qui a été pour lui un vrai compagnon. C'est qui ? Luc, le médecin. Cet homme qui a été un serviteur de Dieu, tranquille, paisible, et qui a appris à bras le cœur la vocation que Dieu lui avait donnée, qui était celle de prendre soin de ses frères. Il aurait pu se dire, moi, Luc, qui a marché avec Paul. Il aurait pu se présenter en disant « Moi, je suis le bras droit de Paul. » Vous connaissez Paul, hein ? Ben, je suis son bras droit. Il ne bouge pas sans que moi, je sois là. Vous ne voyez jamais Luc dire ça. Parce qu'il savait quelle était sa vocation. Et quand on parle de vocation, ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on fait parce que tout simplement, ou on a reçu une formation, ou c'est ce qui nous donne à manger. Je me rappelle d'un médecin que nous avons eu pendant le temps qu'on habitait en Alsace, une femme remarquable. À 6 heures le matin, elle était déjà sur la route en train d'aller voir ceux qui étaient malades à la maison. Toute la journée, elle était à son cabinet. Combien de fois, quand on l'appelait en disant « Voilà, ça ne va pas, est-ce qu'on peut passer ? À quel moment ? Vous venez, je vous appelle. » À 23h, 23h30, elle était toujours dans son cabinet, elle vous appelait, vous y allez. Vous avez l'impression qu'elle venait d'arriver dans son cabinet, elle était souriante, elle prenait le temps de vous écouter, de vous ausculter, elle prenait le temps avec chaque personne. Et vous lisiez dans son visage le regard de quelqu'un qui le faisait vraiment avec abnégation, quelqu'un qui avait vraiment une vocation. Aujourd'hui, parfois, quand on a affaire à certains médecins, on se rend compte que ce n'est pas du tout. Hein. Avant que vous dites « Ah », il vous dit « Vous sors... » Faut payer. Mais j'ai rien dit. Ouais, mais tu payes. Hein ? Tu payes. Et après, on verra. Et tu vas et tu dis rien, mais tu payes quand même. Et ils sont devenus fonctionnaires. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de devenir des fonctionnaires des choses de l'Esprit, des choses de Dieu. Alors l'apôtre Paul parle de la grâce que nous avons reçu à la mesure du don de Christ. De quoi s'agit-il ? Vous vous rappelez de ce moment où Jésus se trouve dans la maison d'un homme, et là, il y a une femme qui vient et qui se met à ses pieds, qui pleure, qui essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux, qui n'arrête pas d'embrasser les pieds de Jésus sans dire un mot. Et là, cet homme, il le regarde et dit « Ah, s'il était un prophète !» Il saurait qui c'est cette femme qui agit comme ça à ses pieds. Il ne se laisserait pas toucher. Et Jésus, dans son immense bonté, miséricorde et sagesse, proposera à cet homme, mais à nous tous, quelque chose qui doit nous laisser réfléchir. Et il parlera de quelqu'un qui a une petite dette et quelqu'un qui en a une grande. Et à la fin de cette histoire, il lui dira, à ton avis, qui aura le plus de reconnaissance, eh bien cet homme, sagesse humaine, ben dira, Mais celui à qui il a remis la plus grande dette. Et Jésus lui dit, tu vois, cette femme, elle est ainsi parce que sa dette était grande. Et elle a reçu beaucoup de choses. Mais toi, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de quoi me laver les pieds. Tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas accueilli, tu ne m'as pas reçu. Alors on pourrait se dire, mais ça c'est une histoire du passé. Des fois, vous savez, entre le passé et le présent, c'est très court. On peut venir, excusez-moi, dans ce lieu sans jamais rencontrer Jésus. On peut même chanter sans avoir jamais entendu la voix de Dieu dans notre cœur. On peut vivre des choses en se disant, voilà, j'ai soulagé ma conscience, je rentre chez moi, je suis allé au culte ce matin. Je suis un bon chrétien. Mais mon frère, ma sœur, si ton cœur n'a pas rencontré le cœur de Dieu, dis-toi que peut-être tu as besoin de retourner dans ta chambre, fermer la porte, te mettre à genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'entendre ta voix ? Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche ? Parce que si je suis devenu un fonctionnaire, si j'ai perdu la grâce, parce que finalement, Seigneur, je n'ai pas considéré à juste titre quelle est ma vraie condition de cœur, alors je suis loin de vivre la grâce. J'ai pu avoir entendu parler du pardon. Imaginez que je vous dise qu'à une telle adresse, si vous allez, vous avez une personne qui vous fait un chèque du montant de toutes les dettes que vous avez. Moi, je suis sûr que je ferme les yeux pour prier, pour terminer la réunion, et je n'ai même pas commencé à dire « Seigneur ». Oui. Sauf ceux qui n'ont plus de dettes. C'est juste ou pas ? Soyons vrais. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a une adresse. Vous ne pouvez pas y aller avec votre voiture. Vous ne pouvez pas y aller avec vos moyens. La meilleure manière d'entamer ce chemin, c'est à genoux. Mais vraiment à genoux, hein. Avec la tête entre les mains et des vraies larmes, pas des larmes de crocodile. Vous savez d'ailleurs pourquoi le crocodile pleure ? D'abord, il mange ses petits, après, il pleure. Terrible, hein ? D'abord, il fait les bêtises et après... Et nous, parfois, en tant que chrétiens, d'abord, on prend nos décisions, on fait ce qu'on veut et après, on pleure. Mais Seigneur, si tu me l'avais dit... Et là, le Seigneur te dit, mais si seulement tu avais pris le temps de lire ma parole, si tu avais écouté, et si tu étais venu me voir en disant, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Alors, l'apôtre Paul parlera de cette grâce et il parlera de l'unité qui ne veut pas dire uniformité. Parfois, on est tenté de vouloir voir ce que nous vivons aussi dans les autres, que les autres fassent comme nous. Et on croit que c'est le bon choix parce que nous, on le vit bien. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient ? Justement, ce n'est pas de l'uniformité que Dieu veut, mais de l'unité. Et il nous parle de l'unité dans l'amour, dans la douceur, dans la patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y en a un seul de lien. C'est la paix en Christ. Ce n'est pas la paix que nous, on peut faire en disant « cherchons la paix, allez, cherchons le compromis ». Ce n'est pas du tout ça. Et il est question pour nous de vivre d'une manière digne de cette espérance et de la vocation, puisque nous avons une vocation en Jésus-Christ, un seul, unique, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais il est question pour nous de vivre selon la mesure du don de Christ. Alors la première question pour nous ce matin, c'est comment vivons-nous notre vocation au sein de l'Église ? 1 Corinthiens 12 dira ceci, à partir du verset 7, « Aura chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En effet, il a été donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, le corps est un, tout en ayant plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Amen. En lisant ce texte, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire là? Il nous parle de membres, il nous parle du corps, il nous parle de diversité, d'unité. Mais il est question pour nous de comprendre, frères et sœurs, que tout ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors je me suis dit, Seigneur, peut-être que le problème aujourd'hui, pour que nous puissions voir davantage ta gloire dans l'Église, c'est qu'on a perdu. C'est qu'on a oublié. C'est qu'on a négligé notre vocation dans l'Église. Et de vocation, nous en avons fait notre commerce personnel. Que se passerait-il si Dieu donnait à une personne le don des guérisons? Ah, ben oui. Sauf que, est-ce qu'on resterait avec cette humilité qu'il faut pour finalement être un instrument entre les mains de Dieu? Ou est-ce que quand on arrive dans un lieu, on se dit maintenant, je vais guérir tout le monde? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que quand nous apportons une parole, quel qu'il soit, est-ce que nous la donnons avec cette humilité qui nous garde et qui nous protège de tomber dans le piège de l'orgueil, parce que l'orgueil est un piège, voire même un gouffre, glissant? Une fois qu'on a mis les pieds, on se dit, mais moi, dans la parole de Dieu, je ne vois pas des hommes par eux-mêmes se présenter comme prophètes. Étaient des prophètes de l'Éternel et Dieu manifestait ce qu'il avait mis sur leur cœur. Je ne vois pas l'apôtre Paul arriver dans une ville. Moi, l'apôtre Paul, vous savez, il commençait par prier, commençait par prêcher l'Évangile et après Dieu faisait le reste, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes dans cette vocation de servir Dieu ou est-ce que nous sommes tombés dans le piège de nous servir de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, si l'Église elle ne vit pas ce qu'elle doit vivre, c'est parce que, frères et sœurs, on a perdu une part de cette vocation qui fait que nous sommes au service les uns des autres. La réunion de prière, c'était une réunion de service. Le plus beau service. Pourquoi ? À qui on rend service quand on prie? À qui rendez-vous service quand vous priez? Alors analysez bien vos prières. Parce que, excusez-moi de dire cela, parfois nos prières c'est « Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, tu m'as fait, Seigneur, ceci, et Seigneur, tu vois cela. » Et on a oublié que Seigneur connaît déjà mes besoins. Est-ce que je suis venu servir les autres ou je suis venu me servir? Presque à dire au frère, tu n'as pas dit amen à ma prière. Et il n'y a pas eu assez d'amen à ma prière. Parfois, notre prière est plus une forme de publicité. Dieu m'a fait ceci. Eh bien, vous savez, certes, on doit rendre gloire à Dieu, mais jamais tirer la gloire sur nous-mêmes. Alors, première question, où nous en sommes-nous aujourd'hui avec notre vocation au sein de l'Église? Deuxième question, nous devons être dignes de la vocation hors des murs de l'Église. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30 dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Amen. Il est question pour nous, frères et sœurs, d'être dignes de la vocation, même quand le terrain dans lequel Dieu nous amène, il est hostile. Il nous a été fait grâce de souffrir pour le Seigneur. Je dois être sincère, il y a quelques années de cela, je ne voyais pas ça comme une grâce. Pour moi, la grâce, c'est quand Dieu me sortait des problèmes. Non ? Seigneur, merci, tu m'as fait grâce. Ça veut dire quoi, avoir reçu grâce ? C'est que tu étais emprisonné dans une situation, tu as sorti de cette situation. Mais là, l'apôtre Paul, il me dit, non, la grâce, c'est parce que tu as été considéré digne de souffrir pour le Seigneur. Ah bon ? Ah mais là, ça change tout mon regard. Et d'un coup, si je vais lire dans Hébreux chapitre 11, verset 35 au verset 2 du chapitre 12, j'apprends ceci. Hébreux 11, 35. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. En peu de paroles, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas renoncé à Christ pour obtenir une résurrection meilleure. Peu importe, vous me prenez la vie, mais vous ne m'enleverez pas mon salut en Jésus-Christ. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Alors quand je lis tout ce que ses frères, ses sœurs ont subi, je me dis, Seigneur, rends-moi digne de la vocation que je dois avoir hors des murs de l'Église. Parce qu'encore entre les murs de l'Église, ça peut être facile. Non ? Là, on est entre nous. Si vous vous tournez, vous dites à un frère et une sœur, Alléluia, Dieu est bon. Qu'est-ce que vous allez vous entendre dire ? Amen, oui, il est bon. Mais quand vous êtes dans le monde, qu'est-ce que vous entendez dire ? Dieu ? Tu sors d'où ? Quoi ? Tu crois à ça ? Eh bien là, le Seigneur nous demande d'être digne aussi de notre vocation. Quand en effet, on ne reçoit pas des Alléluia, des Amen, quand on ne dit pas Amen à notre prière, quand on ne dit pas à mon frère, ma sœur, passe, je t'en prie. Mais non, on te met un coup de pied, on te dit, va dehors parce que tu me déranges. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est l'injustice qui règne. Ici, c'est d'autres règles qui règnent. Moi, j'observe toujours, hein, c'est mon défaut, hein, vous m'excuserez. Hein. Je vois quand vous arrivez, parfois vous êtes nombreux à la porte d'entrée, et là, rentre mon frère, non, rentre ma sœur. Et c'est les petits qui passent. Hein ? Et vous êtes là, et vas-y. Mais dans le monde, ça ne marche pas comme ça. Les gens, ils sont prêts à piétiner les uns sur les autres pour arriver à atteindre leur but, non ? Et peut-être que depuis des années, vous dites, Seigneur, j'aimerais arriver à tel point dans mon travail. Il y en a d'autres qui passent avant vous. Mais il le dit, le texte, certains n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de... Amen. Alors, Seigneur, la meilleure chose que je puisse faire, c'est d'être digne de la vocation que tu m'as accordée. Parce que la vraie... bénédiction n'est pas ici-bas. Hein. Ici-bas, si vous avez une, deux, trois, quatre, cinq maisons, 10 maisons, ce n'est pas pour autant que vous avez la bénédiction. Hein. Vous avez du matériel. Mais quand vous partirez dans le ciel, est-ce que vous ramenez votre trousseau de clés ? C'est hier qu'on discutait, on disait que on dit que Pierre a les clés du ciel, il a reçu le trousseau. Hein ? Ça arrive, Pierre, t'as vu ? Moi, mon trousseau, il est bien plus fourni que le tien. Tu sais, moi, je suis déjà au paradis et toi, t'es où ? T'as prévu quoi pour ton éternité ? Elle est où ta vocation ? Et la vocation au sein de l'Église et la vocation hors de l'Église sont celles qui nous amènent à cette troisième partie qui est question d'être digne de la vocation céleste. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, l'apôtre Paul dira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. J'ai mis dans mes notes et je vous les lis telles quelles. Ne faisons pas l'erreur de croire que nous sommes arrivés. Ne vivons pas dans l'illusion d'être parfaits. Ne pensons pas avoir déjà touché au but, mais trois choses. Oublions, tendons, courons. Oubliez. Que devons-nous oublier ? Tout ce qui nous empêche d'avancer. Que devons-nous oublier ? Tout ce qui ne sert à rien. Que devons-nous oublier ? Ce qui nous fait du mal. Alors on pourrait dire, mes frères, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qui nous ont fait mal. Et parfois les blessures, vous savez, les plus dures à vivre, ce n'est pas celles qu'on vit à l'extérieur. C'est celles qu'on vit à l'intérieur, entre frères et sœurs. Avec le corps pastoral. Que Dieu nous garde, autant que pasteur, de croire qu'on a toujours tout fait parfaitement. Ça fait 3 ans qu'on est là. Et en 3 ans, j'ai pris le temps d'écouter, d'examiner, de chercher, de prier. Et je me suis rendu compte que bien des choses font partie de la vie de l'Église. Bien des choses qui ont pu toucher à la vie des uns et des autres sont aussi liées aux conséquences de nos choix, de nos mauvaises décisions, ou bonnes. Mais il y a aussi des choses qui, malheureusement, vous avez subies. Et ça serait trop facile ce matin de vous dire oublier et avancer. Et ça fait un moment que ça travaillait mon cœur. Et ce matin, j'aimerais vous dire sincèrement, au nom du corps pastoral, pardon pour toutes les fois où, autant que pasteur, nous n'avons pas été à l'auteur. Pardon pour toutes les fois où nous avons pu être blessants. Ou peut-être nous avons été suffisants. Ou nous avons pu faire des choses sans donner des explications, alors qu'il aurait fallu commencer par les explications et les choses auraient été beaucoup mieux. Alors, je ne veux pas m'excuser pour ce qui vous a été peut-être dit avec raison. Comprenez bien. Je ne veux pas vous asseoir dans une pensée de dire, bah, tu vois, fin des comptes, je n'avais pas tort. Ce n'est pas à moi de juger. Par contre, je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, il y a certainement des choses qui ont été mal faites. Peut-être pas faites du tout. Elles auraient dû être faites. Et ce matin, j'aimerais bien que l'église de Arles avance. Mais plus que l'église, c'est chacun de vous. Parce que croyez-moi, il y en a certains d'entre vous qui sont restés bloqués à un moment. Et malgré tout votre désir de vivre la vocation que Christ vous a donnée, la blessure est tellement profonde qu'en effet, vous vous avez, excusez-moi, baissé les bras. Parce que vous vous dites, comment je peux finalement servir dans l'Église, puisque c'est dans l'Église même que j'ai été blessé. Alors moi, je ne peux pas le faire à votre place. Comme je dis, et je le dis sincèrement ce matin, je vous demande pardon. Toutes les fois où des frères, des collègues ont pu peut-être mal faire les choses, et moi-même. Par contre, si vous êtes conscient que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, prenez la décision de régler. Faites les choses, parce que cette vocation que Dieu nous a adressée, elle est sainte, elle est belle, elle est bonne. Pas toujours facile, mais il n'y a pas meilleure vocation. Et l'apôtre Paul dira, oublions. Ne revenons pas en arrière. N'essayons pas de ressortir les vieux dossiers, excusez-moi. Vous savez, ces dossiers où on a gardé des traces. J'ai pris par choix, quand je pars d'une église, d'effacer tous les dossiers sensibles que j'ai peut-être dû traiter. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, il ne faut jamais faire ça. Et j'ai dit, mais tu sais, si les, entre guillemets, ces choses ont été réglées et que le Seigneur les a jetées au fond de la mer, quel droit j'ai, moi, de les garder dans mon ordinateur ou dans ma tête? Dieu a oublié, Dieu a pardonné. Amen. Avançons. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait. Parce que s'il devait nous ressortir tous nos vieux dossiers, il y a des dossiers qui ne sont pas si vieux que ça. Hein. Ça peut-être dater de hier, voire de même de ce matin. Hein, où au lieu de dire Alléluia, on a dit autre chose. Ou au lieu de montrer de l'amour, oh ben, il est encore devant moi celui-là, il veut passer avant moi. Hein. C'est pas moi qui va payer les croissants ce matin. C'est le dernier arrivé. Hein. Ah, je vous dis ça parce que j'ai mis en gage à celui qui arrive en retard, le dernier arrivé, paye les croissants aux autres. Comme ça, ça soigne. Mais en même temps, ça soigne tout le monde. Certains ont bien, d'autres, voilà. Il y a des manières de... Alors, je vois le dimanche matin, il court pour être à l'heure. L'apôtre Paul dira, tendons. Seigneur, je tends à toi. Je lève mes mains, Seigneur, je mets tous mes efforts pour y arriver. Et vous savez quoi, quand on le fait, Dieu nous aide. Tendons à quoi? Le texte, il dit, tendons vers ce qui est devant nous. Oui, mais dans le passé, hop, stop. Il y a des années cela, nous avons été mis en charge d'une église où il y avait eu beaucoup de difficultés. Et les premiers 6 mois, je les ai passés à entendre chacun. Et ils avaient raison. Mais j'avais pris par principe de dire, ok, mon frère, ma sœur, j'ai entendu. Maintenant, va prier et tu demandes au Seigneur de fermer cette page. Et vous savez, ils l'ont fait tout cœur. Et c'est à partir de là que l'Église elle a décollé. Moi, je suis certain qu'il y a des dossiers qui ont été fermés. Je vous fais confiance pour aussi croire qu'il y a des pages qui ont été tournées. Mais s'il y a encore une page qui demande juste un petit « faisons-le ». tendant à ce qui est devant nous. Amen. Et le texte, il dit « courant ». Comment peut-on courir, frères et sœurs, si d'abord on ne s'est pas débarrassé de tout ce qui nous encombre ? Voulez-vous courir pour le Seigneur ? Un peu, beaucoup, passionnément ? Alors vous savez, il y a deux types de coureurs. Il y a les sprinteurs, ils courent et se fatiguent vite. Et il y a les coureurs de fond. Et moi j'aimerais bien qu'on soit ces coureurs de fond qui trouvent le bon rythme et qui sont capables de courir bien plus longtemps. Parce qu'on peut faire des sprints et des fois on les voit, il y a des personnes, tu n'as même pas dit amen, il a déjà parti rapide. Il a salué 5 personnes en les checkant en passant, mais il ne s'est pas aperçu, il leur a pris dans l'œil. Un dans l'œil, l'autre dans le foie. Mais ce n'est pas spirituel. Comment pouvons-nous, frères et sœurs, courir ensemble ? Alors, juste terminer. Vous savez, la course auquel on est appelé, ce n'est pas celle qui prime le premier arrivé, mais qui prime tous ceux qui arrivent. Béni soit Dieu. Le Seigneur a pensé à ma ligne. Est-ce que ce n'est pas évident de courir ? On peut pas être des chevals de trait et des chevals de course en même temps. Alors, il y en a, c'est des chevals de course, des flèches. Il y en a, c'est des chevals de trait. Ça porte, ça tire la charrette. Et Dieu use de grâce. Mais l'important, c'est qu'on puisse courir ensemble et dans la même direction. Et si on voit quelqu'un qui n'y arrive pas, ce matin, si vous avez à cœur quelqu'un que vous voyez ne plus arriver à courir, peut-être vous en connaissez les raisons. Peut-être vous ne les connaissez pas. Et je vais vous dire, ce n'est même pas nécessaire que vous les connaissiez. Et si on prenait juste le temps ce matin de prier. Et si on prenait aussi l'engagement devant le Seigneur de dire, Seigneur, je veux à nouveau. Seigneur, je veux à nouveau, Seigneur, remplir ma part de la vocation qui m'est donnée. Seigneur, je veux oublier ce qui est en arrière. Seigneur, je veux aller en avant avec toi. Alors, certes, vous savez, quand on fait des mauvaises expériences, on apprend certaines choses. C'est bien. Mais de l'autre côté, ne faisons pas payer, excusez-moi, les pots cassés à ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Quand on sert le Seigneur, et je termine par ça, sûr. On vit par moments, en tant que serviteur de Dieu dans les églises, des moments très difficiles. Et le plus difficile, vous savez ce que c'est ? Quand après le Seigneur nous dit « Ok, c'est fini, ton temps ici, tu pars ailleurs », c'est de ramener des choses qui pourraient faire qu'on devienne aigri, amer, et qu'à un certain moment, l'église qui nous reçoit paye pour ceux qui ont fait du tort. Et d'un moment, on devient rigide. Plus de relations, comme ça, je me protège. Plus de ceci, comme ça, on évite. Plus de ça, moi je dis que heureusement que Jésus n'a pas fait ça. Mais ça demande aussi d'être prêt à dire, Seigneur, je m'attends à toi. Alors peut-être qu'il y a des pardons que vous ne recevrez jamais. C'est indépendant de vous. Peut-être ces personnes, elles ne sont même plus là. Et ce serait peut-être même, voire étrange de les appeler au bout de je ne sais pas combien d'années pour dire « tu me dois demander pardon ». Par contre, vous, ce matin, vous pouvez libérer votre cœur en disant « Seigneur, moi je veux oublier. Seigneur, moi je désire tendre en avant. Seigneur, je veux à nouveau courir avec toi. Seigneur, je ne veux plus faire du statu quo. Et ça, ça dépend de vous. Inclinons nos têtes. Seigneur, tu nous appelles à être dignes. Cette même dignité qui a fait de toi celui que tu es. Toi seul es digne d'être appelé Dieu. Toi seul es digne d'être assis sur le trône et de régner. Jésus seul a été digne d'aller à la croix pour payer pour nous, lui qui n'avait commis aucun péché. Il est digne d'être assis à ta droite. Seigneur, et tu nous appelles à cette même dignité, pour qu'un jour nous puissions être à tes côtés dans le ciel, pour l'éternité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous et pardonne-nous toutes les fois que nous nous sommes comportés indignement. Toutes les fois où, Seigneur, nous avons mis nos désirs, notre volonté, nos projets en avant. Toutes les fois où nous avons pensé à nous-mêmes et nous avons oublié que, Seigneur, cet appel, Seigneur, il nous était adressé pour le bien commun et que nous devions à chacun et à chaque situation faire preuve, Seigneur, de savoir préserver la paix. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs. Je veux te prier, Seigneur, de consoler le cœur. Les cœurs qui ont été blessés, ceux qui ont été meurtris. Seigneur, je veux te prier vraiment que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde vienne sur eux et les couvre pleinement. Que tu puisses soigner, guérir et faire disparaître les cicatrices, Seigneur. Je veux te prier aussi, Seigneur, de donner courage, de donner force, Seigneur, à ceux qui ont peut-être un geste à faire, un pas à faire, pour que, Seigneur, pas seulement de manière personnelle, nous puissions, Seigneur, vivre pleinement notre vocation, mais que nous permettions aussi aux autres de le faire. Et qu'à aucun moment, Seigneur, nous soyons un obstacle les uns pour les autres. Seigneur, je te prie aussi pour le témoignage que nous avons rendu dans cette ville. Et je te demande pardon pour toutes les fois où notre témoignage n'a pas été à la hauteur. Toutes les fois où nos voisins ont eu avec raison, des choses à nous reprocher. Je te prie, Seigneur, aide-nous à redresser les choses. Et Seigneur, en ce qui concerne notre vocation céleste, comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire nous aussi, Seigneur, nous n'avons pas encore atteint le but. Seigneur, nous ne considérons pas avoir déjà, Seigneur, couru la course jusqu'au bout. Mais Seigneur, nous voulons oublier, Seigneur, tout ce qui a pu nous faire souffrir, tout ce qui a pu être pour nous un moment difficile. Et nous voulons poursuivre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, considérer que nous n'avons pas encore saisi le prix. Mais Seigneur, nous voulons faire une chose. Seigneur, nous voulons tendre vers celui qui est parfait, Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, aller au but, droit au but, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous aider les uns les autres à nous soutenir, Seigneur, à nous encourager et à être fortifiés par ta parole et par ton Esprit Saint. Amen.